Bonjour.
Vous êtes le directeur ou la directrice du service d'astrophysique de l'Institut de recherche fondamentale du CEA, j'ai rien oublié. Et vous allez avoir une partie difficile dans cet après-midi. Difficile parce qu'il va falloir expliquer à nos auditeurs une branche essentielle de la recherche en astrophysique, celle que l'on peut appeler l'astronomie de l'invisible. Il y a bien sûr une astronomie du visible, celle que tout le monde connaît, et il y en a une autre, celle de l'invisible, qui repose sur un phénomène physique que d'ailleurs nous sommes en train d'utiliser très normalement, qui est le rayonnement électromagnétique. Alors dans ce rayonnement électromagnétique, il y a plusieurs tranches. Habituellement, celle qu'on connaît, ce rayonnement, c'est celui qui éclaire les choses, qui est dans l'optique. Mais il y en a bien d'autres parties.
En effet, il y en a bien d'autres. C'est intéressant que on parle aujourd'hui surtout d'astronomie optique, en partie parce que c'est quand même l'astronomie optique qui a amené le plus de découvertes en astronomie depuis des siècles et des siècles. Aussi peut-être parce que l'Institut d'astrophysique est surtout axé dans l'étude de cette lumière. Mais c'est aussi la lumière à laquelle notre œil est sensible. Nous avons donc une préférence presque sentimentale pour elle. Mais il faut en effet rappeler que d'autres laboratoires en France et dans le monde sont tournés vers cette astronomie, cette petite sœur de l'astronomie du visible, qui est l'astronomie de l'invisible. Vous avez des groupes axés sur la radioastronomie, tel celui qui exploite depuis longtemps les radiotélescopes de Nancy.
Oui, le grand télescope qui est pas très loin de Paris d'ailleurs.
C'est ça, en Sologne.
Oui.
Ou celui qui prépare le grand interféromètre millimétrique franco-allemand IRAM. Il y a aussi des groupes qui étudient plus spécifiquement l'astronomie spatiale. C'est le cas, par exemple, de mon laboratoire, le service astrophysique du CEA.
Astronomie spatiale, c'est-à-dire que là, vous êtes obligé d'utiliser un médium qui est le satellite.
Exactement, des satellites ou alors, au départ, des fusées, des ballons. Et tout cela, pourquoi? Parce que, de part et d'autre de la lumière visible, il existe tout un continu d'ondes électromagnétiques, comme vous disiez tout à l'heure, de lumière, dont chacune est caractérisée par la longueur d'onde. Aux grandes longueurs d'onde, il y a les ondes radio, celles qui transmettent cette émission en ce moment et qui vous permettent de m'écouter. Dès 1931, Karl Jansky a perçu une émission radio dont il a pu se rendre compte qu'elle était d'origine cosmique parce qu'elle provenait toujours des régions centrales de notre galaxie, la Voie lactée. Mais en fait, le véritable essor de la radioastronomie a eu lieu après la guerre grâce aux grandes avances technologiques qui ont été faites pour développer les radars.
Oui, les radars ont été utilisés par l'astronomie.
Énormément utilisés par l'astronomie, pas seulement les développements technologiques, mais les antennes elles-mêmes. Les premières antennes de radioastronomie étaient des vieilles antennes radars qui était resté là après la guerre. Depuis, il y a eu énormément de développements technologiques, ce qui fait que paradoxalement, maintenant, c'est en radioastronomie, donc avec ces ondes les plus longues, que l'on peut faire les observations qui ont le plus de précision dans le ciel. C'est-à-dire pour étudier vraiment des régions toutes petites dans le ciel, on utilise maintenant des radiotélescopes qui sont séparés par de grandes distances sur la Terre, par des milliers et des milliers de kilomètres.
On peut faire une remarque générale, Catherine Cesarski. Ce qu'on voit dans le visible, c'est une première image. Et quand on a regardé dans des longueurs d'onde différentes, comme les ondes radio, on en verra certainement d'autres tout de suite, on a bouleversé les images qu'on pouvait se faire des choses. On a augmenté donc notre précision de vision, mais une vision indirecte, cette fois qui était obligée de passer par la médiation d'instruments qui recevaient ce rayonnement. Mais en tout cas, l'astronomie dite de l'invisible a considérablement bouleversé l'image qu'on pouvait se faire de très nombreuses choses. Vision d'une galaxie, vision d'étoiles.
C'est comme si jusque-là, on n'avait vu qu'une partie du tout.
Oui.
Et la majorité du tout était invisible.
Oui.
Maintenant, nous nous sommes créés tous ces sens spéciaux qui nous permettent de rendre visible cette autre partie du tout. Évidemment, tout ce que nous voyons dans l'optique continue à exister. Donc, cette astronomie de l'invisible a amené un formidable changement dans notre perception de l'univers. Parce qu'auparavant, notre univers cosmique, c'était surtout des étoiles qui ressemblaient au Soleil, qui rayonnaient dans le visible. Et puis, les grands ensembles d'étoiles que sont les galaxies. Mais maintenant, nous avons tout un bestiaire supplémentaire. Nuages interstellaires, proto-étoiles, binaires X, pulsars, quasars. Ainsi, parlons un petit peu des pulsars, si vous voulez bien.
Volontiers. Mais tous ces noms, vous savez, font rêver Laurence Bloch qui nous écoute.
J'espère que je ne suis pas la seule.
Alors, allons-y pour les pulsars.
Les pulsars, donc, ce sont des cadavres d'étoiles extrêmement denses et qui tournent très vite. Ils sont quasiment indécelables dans le visible, mais ils ont été découverts grâce à une émission radio très caractéristique, pulsée de façon très précise, au rythme de la rotation de l'étoile, comme une montre, tic, tic, tic.
Oui.
Quelques années plus tard, surprise, on arrive à l'astronomie gamma, on envoie des satellites gamma, et on s'aperçoit que certains de ces pulsars, justement ceux qui tournaient le plus vite, émettent une énergie énorme, bien plus importante, en rayon gamma qu'elles n'en émettaient en rayon radio. Ce sont donc, en général, l'astronomie gamma est liée à des phénomènes très violents, où de très grandes énergies sont libérées, et ces phénomènes très violents ont donc lieu probablement près de la surface de ces étoiles ultra-denses. Ces étoiles ultra-denses exercent évidemment une très puissante attraction gravitationnelle sur leur environnement. Alors, si elles se trouvent à avoir un compagnon, ce qui est quand même très fréquent pour les étoiles. Vous savez que les étoiles aiment beaucoup vivre en couple ou par trois, d'ailleurs.
50% à peu près des étoiles ne sont pas des étoiles solitaires, mais elles vivent avec des compagnons ou des compagnonnes.
Tout à fait. Et lorsque l'une de ces étoiles est très concentrée, elle a tendance à essayer d'annexer une partie de la matière du compagnon. Cette matière tombe donc sur l'étoile très dense sous forme d'une pluie de gaz, et en tombant, ce gaz s'échauffe très fortement, tellement fortement qu'il émet des rayons X. Et quand je vous le raconte, enfin moi ça me semble naturel, peut-être pas vous.
C'est très exotique pour nous.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les astrophysiciens n'avaient pas vraiment prédit ce phénomène, et que c'est vraiment lorsqu'ils ont envoyé les premiers télescopes X qu'ils ont décelé cette extrêmement intense source dans notre galaxie, et puis maintenant aussi dans des galaxies extérieures.
Et alors, autre rayonnement là encore observé avec du matériel ou des instruments envoyés dans l'espace, c'est le rayonnement dans la partie infrarouge aussi.
C'est ça, c'est le rayonnement infrarouge. On peut l'observer du sol à travers quelques fenêtres atmosphériques, mais avec beaucoup de limitations. L'idéal, c'est d'aller dans l'espace et de plus, pour ne pas être gêné par l'émission propre des instruments, de tout refroidir à des températures très proches du zéro absolu.
Donc il y a une technique de cryogénie très difficile dans ces appareils.
Absolument.
Et quels sont les prochains qui vont partir dans l'espace pour observer donc l'univers dans cette fenêtre de rayonnement ?
En astronomie infrarouge, il n'y a eu pour l'instant qu'un seul satellite et la France n'était pas partie prenante. Mais le deuxième est en préparation, c'est le satellite ISO de l'Agence spatiale européenne, dans lequel la France joue un rôle important. Et ce satellite permettra l'étude physique détaillée des régions émettrices de rayonnement infrarouge. Et c'est en effet en infrarouge qu'on a découvert finalement aussi de nouveau un nouveau bestiaire, des sources tout à fait remarquables, par exemple des disques de poussière autour des étoiles, peut-être le début de la formation de nouveaux systèmes solaires, ou bien aussi des galaxies extrêmement lumineuses, plus lumineuses que toutes celles qu'on connaissait jusqu'ici, qui sont vraiment les champions.
C'est absolument incontournable maintenant. L'astrophysique, obligatoirement, doit travailler pour l'astronomie de l'invisible.
En associant aussi l'astronomie visible. L'astronomie visible reste très intéressante, mais il faut combiner les deux pour vraiment comprendre les mystères de notre univers.